Le ciel était voilé au-dessus de l'Atlantique, le vent fort et la pluie intermittente. Le ronron feutré de l'hélicoptère ballottait l'esprit d'Irwin dans une rêverie morne, entrecoupée d'élans d'enthousiasme qui retombaient en scrupules. À ses côtés, le juge Claiborne lisait la jurisprudence concernant les droits du cloneur sur les êtres qu'il avait mis au monde. Ancien avocat célèbre pour les centaines de faillites par dommages et intérêts qu'il avait causés dans les milieux du tabac, de l'alcool et des fast-foods, il s'était fait nommer juge à la Cour suprême pour échapper aux poursuites fiscales grâce aux relations de son collaborateur Antonio Valdez qui, devenu premier homme, l'avait ensuite imposé comme conseiller spécial à la Maison-Blanche. Sous son physique de golfeur débonnaire, Wallace Claiborne était un vautour à l'envergure surestimée. Une digestion lente rendait ses journées courtes, mais une excellente équipe de juristes planchait sur ses dossiers, il ne reculait devant rien et ne lâchait jamais prise. Le genre de personnage qu'Irwin exécrait. À peine embarqué dans l'hélicoptère, Claiborne, en guise de question sur son état de santé, lui avait demandé s'il s'était bien préparé à l'opération, c'est-à-dire suffisamment couvert sur le plan juridique pour faire condamner son chirurgien en cas d'échec. Comme il n'avait pas répondu, l'autre lui avait glissé avec un petit clin d'œil que, le cas échéant, il indiquerait la procédure à son ayant droit. Tandis que le juge plongeait dans ses dossiers, Irwin avait ruminé le malaise que lui donnait toujours l'évocation de sa vie privée. La dernière fois qu'il avait vu son fils, c'était à Paris, 3 ans plus tôt, quand il avait accompagné le professeur McNeil au symposium du CIELT, le Centre international d'études sur le linceul de Turin. Dans la salle de conférence vieillotte à l'assistance clairsemée, il était le seul délégué d'un gouvernement. Le Vatican s'était fait excuser par un télégramme recommandant aux participants la sérénité dans la paix du Christ, et les quelques scientifiques venus présenter leurs travaux avaient été évacués dès le discours d'ouverture par une alerte à la bombe. Tout le monde s'était retrouvé dans le café d'en face. Irwin avait échangé quelques mots avec des types aux allures d'observateurs de l'ONU qui arboraient des badges de couleurs différentes. Voile de Manopello, tunique d'Argenteuil, coiffe de Cahors, suaire d'Oviedo. C'étaient les représentants des autres linges ayant enveloppé le corps de Jésus qui se coudoyaient dans une ambiance de méfiance, rancune et jalousie, chacun estimant son étoffe plus importante, plus riche d'enseignements et moins considérée que celle des autres. Ce qui fascinait Irwin, c'est que chaque dépositaire d'une des pièces formant le grand puzzle de la Passion, dispersé au gré des pillages et retrouvé par miracle, brandissait des preuves historiques comparables, des certificats de datation convergents, des traces de plaies complémentaires, des analyses de sang du même groupe AB, mais contestait d'un ton péremptoire l'authenticité des tissus concurrents. La seule unanimité qui s'élevait entre les 4 agités du textile était pour réclamer à grands cris un conteneur de gaz inerte blindé similaire à celui qui renfermait le linceul de Turin pour protéger leur propre trésor et le soustraire à l'adoration des foules. Le ton montait entre les demi de bière à cause de la subvention pour traitement anti-moisissure allouée par Rome au seul voile de Manopello, un mouchoir transparent imprégné d'une vague trace de visage colorié d'après ses détracteurs. Vociférants, chauvins, hystériques, les délégués se comportaient comme des supporters d'équipes adverses qui s'affrontent au nom de l'amour du football. Il avait rapidement laissé à leur querelle de chiffons ses passionnés sectaires pour aller déjeuner avec son fils. Leur précédente rencontre remontait à 6 mois, le jour où Irwin avait assisté, au dernier rang, à la crémation de la personne qu'il avait le plus aimée au monde. Le sculpteur parisien qu'elle avait jadis quitté pour lui pleurait à ses côtés, et c'était beau de sentir combien cette femme invivable et sublime avait été aimée au-delà de ses divorces. À la sortie, les 2 veufs honoraires étaient allés saluer le dernier en date, le tenant du titre, un mathématicien aussi bouleversé qu'il l'était. Richard Glasner avait embrassé son père du bout des larmes avant d'emboîter le pas à son beau-père, ajournant tout espoir de réconciliation. Irwin n'avait jamais compris pourquoi, dès la naissance, les choses s'étaient si mal passées. Pourquoi cet enfant avait tout compromis, dépassionné, anesthésié dans son couple, après 6 ans d'une passion volcanique et sans nuages. En fait, il n'avait jamais été qu'un amoureux, Le rôle de père ne lui convenait pas. Il n'en avait ni le désir, ni la fibre, encore moins les aptitudes. Ses efforts tombaient à plat et Caroline, l'accusant d'être jaloux du bébé, l'avait renvoyé cloner ses vaches outre-Atlantique. Il ignorait ce qu'elle avait raconté sur lui à Richard, mais chaque fois qu'il le prenait pour des vacances à Miami, c'était la tension, le malentendu et le ratage qui l'emportaient sur les réjouissances prévues. Erwin n'avait pas refait sa vie. « À cause du petit », disait-il, sans être dupe. Ce mardi de novembre, devenu directeur adjoint du Mouvement général des fonds à la Banque de France, le petit avait convié son père dans un restaurant japonais où le spectacle des cuisiniers trancheurs tenait lieu de conversation. Il s'était tu de profil pendant une heure, conscient d'avoir trop à se dire et ne sachant par où commencer. Irwin serrait les dents sur ses sushis pour s'empêcher de pleurer devant cet étranger qui avait les yeux, le nez et le menton de la femme de sa vie. Incapable de raisonner au-delà des pièces détachées, à l'image de ses représentants en lingerie qu'il avait côtoyés le matin même au Sielt, il s'en voulait de ne voir en Richard que la caricature masculine de son amour perdu. Et la nature de son trouble était parfaitement claire. En le quittant, le directeur adjoint du Mouvement général des fonds lui avait dit que, par rapport à son beau-père qui l'aimait profondément, c'était mieux qu'il ne se revoie plus. Irwin avait hoché la tête, l'air compréhensif, crevant de chagrin en silence, et l'avait regardé s'éloigner sur le trottoir. Il se sentait comme ces vieux amants qu'on sacrifie à la paix d'un ménage. Cette journée d'automne qu'il avait remis face à ses deux obsessions, l'existence d'un sang christique offert à la tentation du clonage et la certitude des liens de vieillesse qu'il n'aurait jamais avec son fils adulte, l'avait plongé dans une apathie lucide et résignée dont, 3 ans plus tard, il n'était pas sorti. Sa vie s'achevait dans un tunnel coudé. Il ne voyait plus la lumière ni devant ni derrière et, couché sur les rails, attendait un train qui tardait. C'était le cauchemar qu'il faisait 4 ou 5 nuits par mois, chaque fois qu'il s'abstenait de boire.
Bon, conclut le juge Claiborne en refermant le dossier, tout dépend des brevets que Sanderson a pu prendre à l'étranger. Celui qu'il a déposé aux États-Unis en 1994, à la naissance de son Christ, s'intitule « Méthode de clonage bovin et non bovin utilisant des cellules embryonnaires ou non embryonnaires ». Irwin, qui venait de se réveiller en sursaut, rassembla ses idées et grommela « N'employez pas le mot Christ, merci. »
Je dis quoi alors ? Jésus bis ?
Le nom de code du projet, c'est Oméga.
Va pour Oméga. En tout cas, il s'est bordé à mort, ce cochon. Son brevet fait 70 pages et couvre absolument tout sans jamais employer le mot humain qu'il aurait fait rejeter par les instances chargées de l'examen.
Vous en avez une copie ? Wallace Claiborne plongea la main dans sa serviette, lui tendit le document. Consterné, Irwin feuilleta les pages qui décrivaient, article après article, tous les cas de figure du clonage à partir de cellules quiescentes, en croissance ou adultes, y compris les cellules somatiques humaines, désignées sous leur code biologique, et les mélanges de protéines employées pour les stimuler avant de reprogrammer leur noyau. Sanderson était un génie. À partir d'un titre de brevet suffisamment vague et limité pour ne pas freiner son obtention, le champ d'application de sa propriété intellectuelle couvrait tout ce qui allait être expérimenté et prouvé par des tiers au cours des 30 années suivantes. Derrière le dépôt de la méthode se cachait bien évidemment la revendication d'un copyright sur l'individu produit. Et la période d'exclusivité pendant laquelle nul ne pouvait utiliser son invention ni ses droits dérivés sans le rétribuer par le paiement d'une licence courait jusqu'en 2099.
Bien sûr, ça se plaide, tempéra l'homme de loi de la Maison Blanche. Le brevet est établi au profit de Genetrix Limited, personne morale pour une invention de Philip Sanderson, personne physique, mais actionnaire majoritaire de la dite société qui fut dissoute en 2001 après le retrait de la subvention gouvernementale pour infraction à la loi interdisant les tentatives de clonage humain. Ce qui m'ennuie, c'est que le Congrès est en train de voter la levée de l'interdiction et je me vois mal arguer des effets rétroactifs d'une loi en cours d'abrogation.
Quel est votre objectif, Wallace ? Casser légalement le marchandisage d'un être humain ou le négocier au meilleur prix ? Vous n'êtes pas en train d'acheter un esclave ?
Le juge s'offusqua d'un haussement de sourcils et pinça la cravate lavande assortie à ses yeux avant de purger sa conscience d'un ton digne.
Le président m'a simplement demandé de veiller à ce que l'image de votre Oméga soit libre de tout droit.
Oublié, soupira Irwin en lui désignant la page 47. Claiborne fronça le nez au-dessus des lettres TAGC répétées en ordre variable sur des centaines de colonnes.
Thymine, adénine, guanine et cytosine, précisa le conseiller scientifique. Les substances chimiques de l'ADN, dont l'ordre de succession définit l'entité génétique. Sandersen a introduit dans le brevet, à titre d'exemple anonyme de ses travaux, la séquence des bases de son clone Oméga. Ça devrait lui suffire, non ? Comme titre de propriété.
Son agressivité amère fit sourire le juge, qui passa la main dans sa belle chevelure blanche, puis desserra sa ceinture de sécurité en déclarant
« Je m'appuierai sur l'affaire Infigen contre Advanced Cell Technology. » La firme Infigen avait breveté les techniques de transfert de noyaux bien avant la naissance de la brebis Dolly. Elle a plaidé que ses droits s'appliquaient à toutes les formes de clonage issues de cellules adultes. Faire figurer sur un brevet ultérieur l'identité du clone, qu'on l'appelle Dolly, Jésus bis ou TAGC, n'est pas recevable juridiquement, à moins de s'appuyer sur une technologie innovante, ce qui n'est pas le cas, le dépôt de Génétrix ne faisant qu'adapter à l'homme de manière détournée la transplantation nucléaire effectuée sur le mouton.
Vous êtes sûr de vous ? Balbutia Irwin, saisi d'un immense espoir.
Claiborne soutint son regard, puis nuança son analyse d'une moue et se tourna vers les nuages qui défilaient autour du cockpit.
Sur le plan de la discussion financière, oui, j'ai des bases.
Mais quelle a été la décision du tribunal pour Infigen ?
Ils se sont arrangés à l'amiable.
L'île apparut sur la gauche. L'hélicoptère amorça sa descente et les deux hommes se turent jusqu'à l'arrêt du rotor.